Si le sujet de ce podcast vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au Journal des Tribunaux, sachez qu'il est possible de demander un exemplaire gratuit en suivant le lien dans la description.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le podcast du Journal des Tribunaux. Je suis Georges Alberdal, le rédacteur en chef du Journal des Tribunaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. François Tulkens, qui est avocat au barreau de Bruxelles, maître de conférence invité à l'Université Saint-Louis-Bruxelles et secrétaire général du comité de rédaction du Journal des Tribunaux. Et Jérôme de Broer, juriste historien chargé de cours à l'ULB. Ensemble, nos deux interlocuteurs, avec 12 co-auteurs, 14 personnes en tout, ont rédigé le numéro thématique du Journal des Tribunaux consacré au centenaire de l'arrêt Flandria. Ce numéro sortira le 7 novembre prochain. Il sera disponible aux abonnés du JT dans la foulée, ainsi que sur notre site internet larcier.com. Et au cours de cette émission, nous allons faire le point sur la responsabilité des pouvoirs publics en 2020, tout en faisant quelques détours historiques. Premier détour historique avec l'historien Jérôme de Broer. Qu'est-ce que c'est que Flandria ?
Oui, bonjour Georges Albert. Je voudrais avec vous, si vous le voulez bien, revenir d'une certaine manière à la vie qu'il y a derrière le droit, à réincarner un arrêt de cassation, à lui redonner de la chair, ce qui n'est pas l'évidence, et bien entendu, avec un arrêt de cassation. Alors la Flandria, ce n'est pas cette société qui vend encore des fruits et légumes que nous connaissons encore. Ce n'est pas cette société de maraîchage que certains électeurs connaissent. C'est une ancienne société qui a disparu aujourd'hui. C'est une société horticole qui produisait des fleurs, des plantes d'ornementation, qui était créée à la fin du 19e siècle, en 1883. À Bruges par un certain Henri Bernhardt. Et cette petite société qui se développe à la fin du 19e siècle va se transformer en société anonyme. Donc ce n'est pas une toute petite société, c'est une société qui connaît un certain développement à la veille du 20e siècle et qui est loin d'être une toute petite société horticole comme on pourrait le penser dans cette idée évidemment d'une société, d'une personne morale face à l'État. Dans un déséquilibre des acteurs. Et on est là, évidemment, dans la situation de l'arrêt Flandria avec la question de la responsabilité de l'État ou de l'irresponsabilité de l'État à l'époque. Un État léviathan, puissant, face à une entreprise, mais ce n'est pas une toute petite entreprise. Et elle est tellement importante qu'elle est cotée en bourse, à la Bourse de Bruxelles, qu'elle se développe en Belgique et bien au-delà. Elle devient, dès le début du XXe siècle, à la veille de la Première Guerre mondiale, un leader mondial des plantes d'ornementation. Elle vend des palmiers, des azalées, elle investit en Espagne, elle va investir au Maroc après la Première Guerre mondiale. Donc c'est une société extrêmement importante.
Donc une société que l'on qualifierait aujourd'hui de multinationale, mais qui est basée à Bruges et qui commence donc un procès à Bruges qui va aboutir en cassation. Il est d'ailleurs amusant de relever qu'à l'époque, toute cette procédure, depuis la première instance, s'est faite en français. Et elle est à l'origine donc de notre numéro spécial qui va aborder une série de thèmes que je vais demander à François Tulkens de nous présenter et de nous résumer pour que nos éditeurs aient une idée du contenu de ce numéro spécial substantiel.
Oui, merci Georges, bien volontiers. On a conçu un numéro spécial Flandria 100 ans qui soit à la fois complet et synthétique. Synthétique parce qu'il y a beaucoup à dire, évidemment, en 100 ans, mais surtout être complet pour pouvoir voir la question année 2020 et les perspectives futures. Et donc, on a conçu ça autour d'abord de la responsabilité des trois pouvoirs, le pouvoir exécutif avec cet arrêt Flandria, mais aussi deux autres arrêts importants, l'arrêt Anka sous la responsabilité du pouvoir judiciaire de 1991 et l'arrêt Ferrara sous la responsabilité du pouvoir législatif qui date de 2016. Donc, on fait le point tout d'abord sur ces trois pouvoirs, leurs responsabilités.
Ce sont trois pouvoirs qui riment.
Oui, absolument. Tout le monde connaît, effectivement, Anka, Ferrara et Flandria. Effectivement, c'est facile comme moyen mnémotechnique pour les étudiants et pour les lecteurs. Mais chaque pouvoir a son régime de responsabilité, même s'il est sous la coupole de l'article 1382 du Code civil, et l'on constate des divergences et tantôt des convergences dans les critères d'appréciation de la responsabilité du pouvoir exécutif, de la faute du pouvoir judiciaire ou de la faute éventuelle du pouvoir législatif. Et puis à côté de ça, on a toujours, en guise de table des matières, voulu aussi examiner de nouveaux aspects, la responsabilité pénale éventuelle des pouvoirs publics, parce que ce n'est pas exclu, et on a là un article qui traite de cette question, qui donne lieu à moins de jurisprudence, la responsabilité aussi des agents eux-mêmes qui travaillent, que l'on soit juge, que l'on soit fonctionnaire ou que l'on soit même membre du Parlement, dans quelle mesure y aurait-il une responsabilité personnelle, c'est du droit social, c'est du droit civil, et puis on a été voir plus loin dans deux directions en particulier. Qu'en est-il des responsabilités des organisations internationales, et spécifiquement l'Union européenne, mais aussi d'autres organisations? Et enfin, quel futur peut faire? Et là, il y a un arrêt très important qui rime encore en A, l'arrêt Urgenda, qui nous vient des Pays-Bas. Et on a une analyse très fine de la transposition de Urgenda chez nous, qui sera peut-être notre droit de demain. Et notamment quant au pouvoir du juge, au regard de la séparation d'un pouvoir, de donner des injonctions ou non à l'un des trois pouvoirs pour mettre fin à d'éventuelles fautes. Bref, un numéro très complet, je pense, qui fait le point de la situation à tous égards et qui se termine par des conclusions d'un spécialiste en la matière, le professeur Bernard Dubuisson.
Bien entendu, derrière chacun de ces thèmes, il y a des noms, on en citera sans doute quelques-uns un peu plus tard, mais je reviens à Jérôme de Broer. Ce qui est intéressant aussi et que nous reproduisons dans nos colonnes, c'est la façon dont cet arrêt a été publié, commenté et reçu à l'époque.
Oui, en effet, Georges Albert, évidemment, on ne perçoit manifestement pas tout à fait l'importance, l'impact de l'arrêt Flandria dans le journal des tribunaux comme ailleurs. Alors, l'arrêt va être publié, je dirais, de manière assez... entre guillemets accessoire, il n'est pas publié en première page, on ne lui donne pas une place particulière. Il est publié juste après un compte rendu d'un banquet donné par le jeune barreau à leurs confrères parisiens de la conférence du stage et un jugement de la justice de paix de Bruxelles, d'un canton de justice de paix de Bruxelles. Par contre, alors oui, à la fin du mois de novembre, finalement. Une réaction un peu plus importante, celle d'un avocat du barreau de Bruxelles qui s'appelle Henri Frick. Henri Frick, son nom ne nous est plus vraiment connu aujourd'hui, mais c'est pourtant quelqu'un qui s'est déjà exprimé sur la responsabilité de l'État et sur un domaine qui a émergé en fait quasiment après l'indépendance de la Belgique et qui va trouver sa concrétisation en 1946, c'est la création d'un Conseil d'État. Évidemment, on voit bien là tout l'intérêt de la prise de parole de Henri Frick, puisque l'intervention de la Cour de cassation dans l'arrêt Flandria, elle coupe l'herbe sous le pied. Au contentieux de la réparation qui pourrait être attribuée à un éventuel Conseil d'État au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc Henri Frick, il s'est imposé assez tôt, dès 1874, comme l'un de ceux qui soutiennent la formation d'un Conseil d'État, et pourquoi pas dans le contentieux de la réparation. Et puis, il y a autre chose avec Henri Frick qui est assez amusant, au-delà du soutien qu'il apporte à la formation d'un Conseil d'État, c'est que Henri Frick est bourgmestre. Il est bourgmestre de la commune de Schaerbeek. Alors évidemment, l'arrêt Flandria nous rappelle la responsabilité de l'État, mais il est surtout question dans l'arrêt Flandria de la responsabilité de la ville de Bruges. Et Henri Frick, lui, est bourgmestre de Schaerbeek, et à Schaerbeek, comme à Bruges, il y a des arbres, et peut-être des arbres à entretenir, et des arbres qui peuvent causer des dégâts.
Bien sûr, mais revenons après cet intéressant coup d'œil rétrospectif à la situation actuelle. Alors, François Tulkens, peut-être quelques noms pour illustrer par des noms les thèmes qui ont été abordés, et nous ne pouvons pas tous les envisager, mais peut-être un mot sur l'un ou l'autre particulièrement saillant.
Oui, je crois que tous les sujets ont leur intérêt, mais si l'on devait retenir quelque chose pour appâter les lecteurs, c'est tout d'abord la situation sur la responsabilité des trois pouvoirs. Alors nous avons sur la responsabilité du pouvoir exécutif deux jeunes assistants de Saint-Louis qui ont fait un texte synthétique sur une vaste question, et notamment de savoir si toute illégalité commise par le pouvoir exécutif est une faute ou pas. La théorie de l'unité absolue, dont on s'écarte semble-t-il vers plutôt une unité relative, ayant quand même les juges ayant une certaine bienveillance vis-à-vis des fautes commises par le pouvoir exécutif, notamment dans l'interprétation des lois qui sont pour le moins complexes. À côté de ça, on a un article de Paul Martens, brillante plume s'il en est, sur la responsabilité du pouvoir judiciaire. Quand est-ce qu'un juge, ou du moins l'État belge, engage sa responsabilité pour une faute d'un membre du pouvoir judiciaire ? Vaste question. Les juges doivent avoir l'air indépendants du juge, mais en même temps, ils doivent respecter les règles. Et il y a des critères qui sont un peu différents. Et puis le pouvoir législatif, Frédéric Bon, professeur à l'Université de Liège, fait le point sur celui qui normalement semblait inatteignable. Le pouvoir législatif est souverain, pensait-on. Eh bien, ça n'est pas le cas depuis l'arrêt Ferrara. Il peut commettre des fautes ou par l'adoption de normes, par exemple, inconstitutionnelles, mais toute inconstitutionnalité n'est pas nécessairement une faute. Donc elle a des nuances, des subtilités qu'il mérite de qu'il faut bien analyser, et ces trois auteurs, tous ces auteurs le font remarquablement. Je dirais encore un autre de l'article de Sébastien Van Drogenbroek sur voir plus loin. Dans quelle mesure on peut obtenir une réparation effective, et c'est lié au droit de l'homme, ça, un droit, un procès effectif, et notamment regarde la séparation des pouvoirs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'arrêt Urgenda. Les juges ne vont-ils avoir tendance, comme aux Pays-Bas chez nous, à faire en sorte que les pouvoirs en question réalisent les objectifs, mais gardent la liberté dans les moyens ? Prenons les questions climatiques pour lesquelles on veut par exemple lutter contre la pollution et assurer la qualité de l'air. Eh bien, c'est toujours des objectifs européens. Si l'on va à rebours de ça, on peut sanctionner les pouvoirs publics, mais on doit leur laisser la liberté des moyens pour y arriver. On a des climats ZAC, chez nous, des affaires, des litiges climatiques qui tendent vers cela. Et voilà des idées que produit Sébastien pour justement alimenter la discussion en la matière. Et puis, il y en a d'autres, je vous l'ai dit, en matière pénale, en matière internationale, en matière civile des agents. Donc, on a vraiment un large panel.
Voilà, nos auditeurs se rendent bien compte qu'il n'est pas possible d'aller dans le détail, même dans le résumé de chaque article, mais l'idée qui apparaît, c'est le caractère tout à fait passionnant de ce numéro spécial, je le répète, qui sera daté du 7 novembre. Ceci conclut cet épisode du podcast du Journal des Tribunaux. Je vous remercie, messieurs, pour votre présence et votre participation à l'émission. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. Et je vous rappelle donc que ce numéro spécial sera daté et disponible le 7 novembre prochain.